Chapitre 6. Il vole sous lui, étendu comme un nageur, ses deux ailes grandes ouvertes, en le cachant tout entier, semblent un nuage. Antoine. Où vais-je? Tout à l'heure j'ai entrevu la forme du maudit. Non, une nuée m'emporte, peut-être que je suis mort et que je monte vers Dieu. Ah, comme je respire bien! L'air immaculé me gonfle l'âme, plus de pesanteur, plus de souffrance. En bas, sous moi, la foudre éclate, l'horizon s'élargit, des fleuves s'entrecroisent. Cette tache blonde, c'est le désert, cette flaque d'eau, l'océan. Et d'autres océans paraissent, d'immenses régions que je ne connaissais pas. Voici les pays noirs qui fument comme des brasiers, la zone des neiges obscurcies toujours par des brouillards. Je tâche de découvrir les montagnes où le soleil, chaque soir, va se coucher. Le diable. Jamais le soleil ne se couche. Antoine n'est pas surpris de cette voix. Elle lui semble un écho de sa pensée, une réponse de sa mémoire. Cependant, la terre prend la forme d'une boule, et il l'aperçoit au milieu de l'azur qui tourne sur ses pôles en tournant autour du soleil. Le diable. Elle ne fait donc pas le centre du monde. Orgueil de l'homme, humilie-toi. À peine maintenant si je la distingue, elle se confond avec les autres feux. Le firmament n'est qu'un tissu d'étoiles. Il monte toujours. Aucun bruit, pas même le croassement des aigles, rien. Et je me penche pour écouter l'harmonie des planètes. Le diable. Tu ne les entendras pas. Tu ne verras pas non plus l'antique tonne de Platon, le foyer de Philolaüs, les sphères d'Aristote ni les sept cieux des Juifs, avec les grandes eaux par-dessus la voûte de cristal. D'en bas, elle paraissait solide comme un mur. Je la pénètre, au contraire, je m'y enfonce. Et il arrive devant la lune qui ressemble à un morceau de glace tout rond, plein d'une lumière immobile. C'était autrefois le séjour des âmes. Le bon Pythagore l'avait même garni d'oiseaux et de fleurs magnifiques. Je n'y vois que des plaines désolées, avec des cratères éteints sous un ciel tout noir. Allons vers ces astres d'un rayonnement plus doux, afin de contempler les anges qui les tiennent au bout de leurs bras comme des flambeaux. Et le diable l'emporte au milieu des étoiles. Elles s'attirent en même temps qu'elles se repoussent. L'action de chacune résulte des autres et y contribue sans le moyen d'un auxiliaire par la force d'une loi, la seule vertu de l'ordre. Antoine. Oui, oui, mon intelligence l'embrasse. C'est une joie supérieure au plaisir de la tendresse. Je halète, stupéfait devant l'énormité de Dieu. Le diable. Comme le firmament qui s'élève à mesure que tu montes et grandira sous l'ascension de ta pensée, et tu sentiras augmenter ta joie d'après cette découverte du monde dans cet élargissement de l'infini. Ah, plus haut! Plus haut toujours. Les astres se multiplient, scintillent. La voie lactée au zénith se développe comme une immense ceinture, ayant des trous par intervalles. Dans ces fentes de sa clarté s'allongent des espaces de ténèbres. Il y a des pluies d'étoiles, des traînées de poussière d'or, des vapeurs lumineuses qui flottent et se dissolvent. Quelquefois, une comète passe tout à coup, puis la tranquillité des lumières innombrables recommence. Antoine, les bras ouverts, s'appuie sur les deux cornes du diable en occupant ainsi toute l'envergure. Il se rappelle avec dédain l'ignorance des anciens jours, la médiocrité de ses rêves. Les voilà donc près de lui, ces globes lumineux qu'il contemplait d'en bas. Il distingue l'entrecroisement de leurs lignes, la complexité de leur direction. Il les voit venir de loin et, suspendus comme des pierres dans une fronde, décrire leurs orbites, pousser leurs hyperboles. Il aperçoit d'un seul regard la croix du sud et la grande ours, le lynx et le centaure, la nébuleuse de la Dorade, les six soleils dans la constellation d'Orion, Jupiter avec ses quatre satellites et le triple anneau du monstrueux Saturne. Toutes les planètes, tous les astres que les hommes plus tard découvriront. Il emplit ses yeux de leur lumière, il surcharge sa pensée du calcul de leur distance, puis sa tête retombe. Quel est le but de tout cela? Le diable. Il n'y a pas de but. Comment Dieu aurait-il un but? Quelle expérience a pu l'instruire? Quelle réflexion le déterminer? Avant le commencement, il n'aurait pas agi, et maintenant, il serait inutile. Il a créé le monde, pourtant, d'une seule fois, par sa parole. Mais les êtres qui peuplent la terre y viennent successivement, de même au ciel, des astres nouveaux surgissent. Effets différents de causes variées. La variété des causes est la volonté de Dieu. Mais admettre en Dieu plusieurs actes de volonté, c'est admettre plusieurs causes et détruire son unité. Sa volonté n'est pas séparable de son essence. Il n'a pu avoir une autre volonté ne pouvant avoir une autre essence. Et puisqu'il existe éternellement, il agit éternellement. Contemple le soleil. De ses bords s'échappent de hautes flammes lançant des étincelles qui se disposent pour devenir des mondes. Et plus loin que la dernière, au-delà de ces profondeurs où tu n'aperçois que la nuit, d'autres soleils tourbillonnent derrière cela, d'autres et encore d'autres indéfiniment. Ah, c'est assez. J'ai peur, je vais tomber dans l'abîme. Le diable s'arrête et en le balançant mollement, le néant n'est pas, le vide n'est pas. Partout il y a des corps qui se meuvent sur le fond immuable de l'étendue et comme si elle était bornée par quelque chose, ce ne serait plus l'étendue mais un corps. Elle n'a pas de limite. Pas de limite. Monte dans le ciel toujours et toujours. Jamais tu n'atteindras le sommet. Descends au-dessous de la terre pendant des milliards de siècles. Jamais tu n'arriveras au fond, puisqu'il n'y a pas de fond, pas de sommet, ni haut ni bas, aucun terme. Et l'étendue se trouve comprise dans Dieu, qui n'est point une portion de l'espace, telle ou telle grandeur, mais l'immensité. Antoine, lentement, la matière, alors, ferait partie de Dieu? Pourquoi non? Peux-tu savoir où il finit? Mais je me prosterne, au contraire, je m'écrase devant sa puissance. Et tu prétends le fléchir. Tu lui parles, tu le décores même de vertus, bonté, justice, clémence, au lieu de reconnaître qu'il possède toutes les perfections. Concevoir quelque chose au-delà, c'est concevoir Dieu au-delà de Dieu, l'être par-dessus l'être. Il est donc le seul être, la seule substance. Si la substance pouvait se diviser, elle perdrait sa nature. Elle ne serait pas elle. Dieu n'existerait plus. Il est donc indivisible comme infini, et s'il avait un corps, il serait composé de parties, il ne serait plus un, il ne serait plus infini. Ce n'est donc pas une personne. Comment? Mes oraisons, mes sanglots, les souffrances de ma chair, les transports de mon ardeur, tout cela se serait en allé vers un mensonge, dans l'espace, inutilement, comme un cri d'oiseau, comme un tourbillon de feuilles mortes. Il pleure. Oh non! Il y a par-dessus tout quelqu'un, une grande âme, un seigneur, un père, que mon cœur adore et qui doit m'aimer. Tu désires alors que Dieu ne soit pas Dieu, car s'il éprouvait de l'amour, de la colère ou de la pitié, il passerait de sa perfection à une perfection plus grande ou plus petite. Il ne peut descendre à un sentiment, ni se contenir dans une forme. Oh, un jour pourtant, je le verrai. Avec les bienheureux, n'est-ce pas, quand le fini jouira de l'infini, dans un instroit restreint, enfermant l'absolu. N'importe, il faut qu'il y ait un paradis pour le bien, comme un enfer pour le mal. L'exigence de ta raison fait-elle la loi des choses? Sans doute le mal est indifférent à Dieu, puisque la terre en est couverte. Est-ce par impuissance qu'il le supporte ou par cruauté qu'il le conserve? Penses-tu qu'il soit continuellement à rajuster le monde comme une œuvre imparfaite et qu'il surveille tous les mouvements de tous les êtres depuis le vol du papillon jusqu'à la pensée de l'homme? S'il a créé l'univers, sa providence est superflue. Si la providence existe, la création est défectueuse. Mais le mal et le bien ne concernent que toi. Comme le jour et la nuit, le plaisir et la peine, la mort et la naissance, qui sont relatifs à un coin de l'étendue, à un milieu spécial, à un intérêt particulier. Puisque l'infini seul est permanent, il y a l'infini et c'est tout. Le diable a progressivement étiré ses longues ailes. Maintenant, elles couvrent l'espace. Antoine n'y voit plus. Il défaille. Oh, un froid horrible me glace jusqu'au fond de l'âme. Cela excède la portée de la douleur. C'est comme une mort plus profonde que la mort. Je roule dans l'immensité des ténèbres. Elles entrent en moi. Ma conscience éclate sous cette dilatation du néant. Le diable. Mais les choses ne t'arrivent que par l'intermédiaire de ton esprit. Tel qu'un miroir concave, il déforme les objets, et tout moyen te manque pour en vérifier l'exactitude. Jamais tu ne connaîtras l'univers dans sa pleine étendue. Par conséquent, tu ne peux te faire une idée de sa cause, avoir une notion juste de Dieu, ni même dire que l'univers est infini, car il faudrait d'abord connaître l'infini. La forme est peut-être une erreur de tes sens, la substance une imagination de ta pensée. À moins que le monde étant un flux perpétuel des choses, l'apparence au contraire ne soit tout ce qu'il y a de plus vrai, et l'illusion la seule réalité. Mais es-tu sûr de voir? Es-tu même sûr de vivre? Peut-être qu'il n'y a rien. Le diable a pris Antoine, et le tenant au bout de ses bras, il le regarde la gueule ouverte, prêt à le dévorer. Adore-moi donc, et maudis le fantôme que tu nommes Dieu. Antoine lève les yeux par un dernier mouvement d'espoir. Le diable l'abandonne. Antoine se retrouve étendu sur le dos au bord de la falaise. Le ciel commence à blanchir. Est-ce la clarté de l'aube ou bien un reflet de la lune? Il tâche de se soulever puis retombe. Et en claquant des dents, j'éprouve une fatigue comme si tous mes os étaient brisés. Pourquoi ? Ah, c'est le diable, je me souviens. Et même il me redisait tout ce que j'ai appris chez le vieux Didyme, des opinions de Xénophane, d'Héraclite, de Mélisse et d'Anaxagore sur l'infini, la création, l'impossibilité de rien connaître. Et j'avais cru pouvoir m'unir à Dieu. Riant amèrement, « Ah, démence, démence, est-ce ma faute ? La prière m'est intolérable, j'ai le cœur plus sec qu'un rocher. Autrefois, il débordait d'amour. Le sable, le matin, fumait à l'horizon comme la poussière d'un encensoir. Au coucher du soleil, des fleurs de feu s'épanouissaient sur la croix. Et au milieu de la nuit, souvent, il m'a semblé que tous les êtres et toutes les choses, recueillis dans le même silence, adoraient avec moi le Seigneur. Oh, charme des oraisons, félicité de l'extase, présent du ciel, qu'êtes-vous devenu ? Je me rappelle un voyage que j'ai fait avec Ammon à la recherche d'une solitude pour établir des monastères. C'était le dernier soir, et nous pressions nos pas en murmurant des hymnes côte à côte sans parler. À mesure que le soleil s'abaissait, les deux ombres de nos corps s'allongeaient comme deux obélisques grandissant toujours et qui auraient marché devant nous. Avec les morceaux de nos bâtons, çà et là, nous plantions des croix pour marquer la place d'une cellule. La nuit fut lente à venir et des ondes noires se répandaient sur la terre qu'une immense couleur rose occupait encore le ciel. Quand j'étais un enfant, je m'amusais avec des cailloux à construire des ermitages. Ma mère, près de moi, me regardait. Elle m'aura maudit pour mon abandon, en arrachant à pleine main ses cheveux blancs. Et son cadavre est resté étendu au milieu de la cabane, sous le toit de roseaux, entre les murs qui tombent. Par un trou, une hyène, en reniflant, avance la gueule. Horreur, horreur ! Il sanglote. Non, Ammonaria ne l'aura pas quitté. Et où est-elle maintenant, Ammonaria ? Peut-être qu'au fond d'une étuve, elle retire ses vêtements l'un après l'autre, d'abord le manteau, puis la ceinture, la première tunique, la seconde plus légère, tous ses colliers, et la vapeur du cinnamome enveloppe ses membres nus. Elle se couche enfin sur la tiède mosaïque. Sa chevelure à l'endroit de ses hanches fait comme une toison noire, et, suffoquant un peu dans l'atmosphère trop chaude, elle respire, la taille cambrée, les deux seins en avant. Tiens, voilà ma chair qui se révolte. Au milieu du chagrin, la concupiscence me torture. Deux supplices à la fois, c'est trop. Je ne peux plus endurer ma personne. Il se penche et regarde le précipice. L'homme qui tomberait serait tué. Rien de plus facile en se roulant sur le côté gauche. C'est un mouvement à faire, un seul. Alors apparaît une vieille femme. Antoine se relève dans un sursaut d'épouvante. Il croit voir sa mère ressuscitée. Mais celle-ci est beaucoup plus vieille et d'une prodigieuse maigreur. Un linceul noué autour de sa tête pend avec ses cheveux blancs jusqu'au bas de ses deux jambes minces comme des béquilles. L'éclat de ses dents, couleur d'ivoire, rend plus sombre sa peau terreuse. Les orbites de ses yeux sont pleins de ténèbres et au fond deux flammes vacillent comme des lampes de sépulcre. « Avance, dit-elle, qui te retient ?» Antoine balbutiant, « J'ai peur de commettre un péché. » Elle le reprend. « Mais le roi Saül s'est tué, Razia, Saint-Just, s'est tué, Sainte Pélagie d'Antioche s'est tué, Dominée d'Alep et ses deux filles, trois autres saintes se sont tuées. Et rappelle-toi tous les confesseurs qui couraient au-devant des bourreaux par impatience de la mort, afin d'en jouir plus vite, les vierges de Milet s'étranglaient avec leurs cordons. Le philosophe Égésias à Syracuse la prêchait si bien qu'on désertait les lupanards pour s'aller pendre dans les champs. Les patriciens de Rome se la procurent comme débauche. Antoine, oui, c'est un amour qui est fort. Beaucoup d'anachorètes y succombent. La vieille, faire une chose qui vous égale à Dieu, pense donc. Il t'a créé, tu vas détruire son œuvre, toi, par ton courage, librement. La jouissance d'Érostrate n'était pas supérieure. Et puis ton corps s'est assez moqué de ton âme pour que tu t'en venges à la fin. Tu ne souffriras pas, ce sera vite terminé. Que crains-tu? Un large trou noir? Il est vide peut-être. Antoine écoute sans répondre, et de l'autre côté paraît une autre femme, jeune et belle, merveilleusement. Il la prend d'abord pour Ammonaria, mais elle est plus grande, blonde comme le miel, très grasse, avec du fard sur les joues et des roses sur la tête. Sa longue robe chargée de paillettes a des miroitements métalliques. Ses lèvres charnues paraissent sanguinolentes et ses paupières un peu lourdes sont tellement noyées de langueur qu'on la dirait aveugle. Elle murmure « Vis donc, jouis donc, Salomon recommande la joie. Va comme ton cœur te mène et selon le désir de tes yeux. » Antoine, mais quelle joie trouver! Mon cœur est là, mes yeux sont troubles. Elle le reprend. Gagne le faubourg de Racotis, pousse une porte peinte en bleu, et quand tu seras dans l'atrium où murmure un jet d'eau, une femme se présentera en péplos de soie blanche, la médor, les cheveux dénoués, le rire pareil au claquement des crotales. Elle est habile. Tu goûteras dans sa caresse l'orgueil d'une initiation et l'apaisement d'un besoin. Tu ne connais pas non plus le trouble des adultères, les escalades, les enlèvements, la joie de voir toute nue celle qu'on respectait habillée. As-tu serré contre ta poitrine une vierge qui t'aimait? Te rappelles-tu les abandons de sa pudeur et ses remords qui s'en allaient sous un flux de larmes douces? Tu peux, n'est-ce pas, nous apercevoir marchant dans les bois sous la lumière de la lune? À la pression de vos mains jointes, un frémissement vous parcourt. Vos yeux rapprochés et penchent de l'un à l'autre comme des ondes immatérielles, et votre cœur s'emplit, il éclate, c'est un suave tourbillon, une ivresse débordante. La vieille, on n'a pas besoin de posséder les joies pour en sentir l'amertume. Rien qu'à les voir de loin, le dégoût vous en prend. Tu dois être fatigué par la monotonie des mêmes actions, la durée des jours, la laideur du monde, la bêtise du soleil. Oh oui, tout ce qu'il claire me déplaît. La jeune, Ermite, ermite, tu trouveras des diamants entre les cailloux, des fontaines sous le sable, une délectation dans les hasards que tu méprises. Et même il y a des endroits de la terre si beaux qu'on a envie de la serrer contre son cœur. La vieille, chaque soir, en t'endormant sur elle, tu espères que bientôt elle te recouvrira. La jeune, cependant tu crois à la résurrection de la chair, qui est le transport de la vie dans l'éternité. La vieille, pendant qu'elle parlait, s'est encore décharnée, et au-dessus de son crâne qui n'a plus de cheveux, une chauve-souris fait des cercles dans l'air. La jeune est devenue plus grasse, sa robe chatoie, ses narines battent, ses yeux roulent moelleusement. La première dit en ouvrant les bras, « Viens, je suis la consolation, le repos, l'oubli, l'éternelle sérénité. » Et la seconde en offrant ses seins, je suis l'endormeuse, la joie, la vie, le bonheur inépuisable. Antoine tourne les talons pour s'enfuir, chacune lui met la main sur l'épaule. Le linceul s'écarte et découvre le squelette de la mort. La robe se fend et laisse voir le corps entier de la luxure, qui a la taille mince avec la coupe énorme et de grands cheveux ondés s'envolant par le bout. Antoine reste immobile entre les deux, les considérant. La mort lui dit, « Tout de suite ou tout à l'heure, qu'importe, tu m'appartiens comme les soleils, les peuples, les villes, les rois, la neige des monts, l'herbe des champs. Je vole plus haut que l'épervier, je cours plus vite que la gazelle. J'atteins même l'espérance, j'ai vaincu le Fils de Dieu. » La luxure. Ne résiste pas, je suis l'omnipotente. Les forêts retentissent de mes soupirs. Les flots sont remués par mes agitations. La vertu, le courage, la piété se dissolvent au parfum de ma bouche. J'accompagne l'homme pendant tous les pas qu'il fait, et au seuil du tombeau, il se retourne vers moi. La mort. Je te découvrirai ce que tu tâchais de saisir à la lueur des flambeaux sur la face des morts, ou quand tu vagabondais au-delà des pyramides, dans ces grands sables composés de débris humains. De temps à autre, un fragment de crâne roulait sous ta sandale. Tu prenais de la poussière, tu la faisais couler entre tes doigts, et ta pensée, confondue avec elle, s'abîmait dans le néant. La luxure. Mon gouffre est plus profond. Des marbres ont inspiré d'obscènes amours. On se précipite à des rencontres qui effraient. On rive des chaînes que l'on maudit. Mais d'où vient l'ensorcellement des courtisanes, l'extravagance des rêves, l'immensité de ma tristesse? La mort, mon ironie, dépasse toutes les autres. Il y a des convulsions de plaisir aux funérailles des rois, à l'extermination d'un peuple, et on fait la guerre avec de la musique, des panaches, des drapeaux, des harnais d'or, un déploiement de cérémonie pour me rendre plus d'hommage. La luxure. Ma colère vaut la tienne. Je hurle, je mords, j'ai des sueurs d'agonisant et des aspects de cadavre. La mort. C'est moi qui te rends sérieuse. Allez, enlaçons-nous. La mort ricane, la luxure rugit. Elles se prennent par la taille et chantent ensemble. Je hâte la dissolution de la matière. Je facilite l'éparpillement des germes. Tu détruis pour mes renouvellements, tu engendres pour mes destructions. Active ma puissance, féconde ma pourriture. Et leur voix, dont les échos se déroulant emplissent l'horizon, devient tellement forte qu'en toi n'en tombe à la renverse. Une secousse de temps à autre lui fait entr'ouvrir les yeux, et il aperçoit, au milieu des ténèbres, une manière de monstre devant lui. C'est une tête de mort avec une couronne de roses. Elle domine un torse de femme d'une blancheur nacrée. En dessous, un linceul étoilé de points d'or fait comme une queue, et tout le corps ondule à la manière d'un ver gigantesque qui se tiendrait debout. La vision s'atténue, disparaît. Antoine se relève. Encore une fois, c'était le diable, et sous son double aspect, l'esprit de fornication et l'esprit de destruction. Aucun des deux ne m'épouvante. Je repousse le bonheur et je me sens éternel. Ainsi la mort n'est qu'une illusion, un voile masquant par endroits la continuité de la vie. Mais la substance étant unique, pourquoi les formes sont-elles variées? Il doit y avoir quelque part des figures primordiales dont les corps ne sont que les images. Si on pouvait les voir, on connaîtrait le lien de la matière et de la pensée, en quoi l'être consiste. Ce sont ces figures-là qui étaient peintes à Babylone sur la muraille du temple de Bélus, et elles couvraient une mosaïque dans le port de Carthage. Moi-même, j'ai quelquefois aperçu dans le ciel comme des formes d'esprit. Ceux qui traversent le désert rencontrent des animaux dépassant toute conception. Et, en face, de l'autre côté du Nil, voilà que le sphinx apparaît. Il allonge ses pattes, secoue les bandelettes de son front et se couche sur le ventre. Sautant, volant, crachant du feu par ses narines et de sa queue de dragon se frappant les ailes, la chimère aux yeux verts tournoie, aboie. Les anneaux de sa chevelure rejeté d'un côté, s'entremêle aux poils de ses reins, et de l'autre il pende jusque sur le sable et remue au balancement de tout son corps. Le sphinx est immobile et regarde la chimère. « Ici, chimère, arrête-toi » La chimère. « Ah non, jamais ! Ne cours pas si vite, ne vole pas si haut, n'aboie pas si fort. Mais ne m'appelle plus, ne m'appelle plus, puisque tu restes toujours muet. Cesse de me jeter tes flammes au visage et de pousser tes hurlements dans mon oreille, tu ne fondras pas mon granit. Tu ne me saisiras pas, sphinx terrible. Pour demeurer avec moi, tu es trop folle. Pour me suivre, tu es trop lourd. Où vas-tu donc, tu cours si vite? Je galope dans les corridors du labyrinthe, je plane sur les monts, je rase les flots, je jappe au fond des précipices, je m'accroche par la gueule au pan des nuées, avec ma queue traînante, je raye les plages, et les collines ont pris leur courbe selon la forme de mes épaules. Mais toi, je te retrouve perpétuellement immobile. Ou bien du bout de ta griffe, dessinant des alphabets sur le sable. C'est que je garde mon secret, je songe et je calcule. La mer se retourne dans son lit, les blés se balancent sous le vent, les caravanes passent, la poussière s'envole, les cités s'écroulent, et mon regard, que rien ne peut dévier, demeure tendu à travers les choses sur un horizon inaccessible. La chimère. Moi, je suis légère et joyeuse. Je découvre aux hommes des perspectives éblouissantes, avec des paradis dans les nuages et des félicités lointaines. Je leur verse à l'âme les éternelles démences, projets de bonheur, plans d'avenir, rêves de gloire, et les serments d'amour et les résolutions vertueuses. Je pousse aux périlleux voyages et aux grandes entreprises. J'ai ciselé avec mes pattes les merveilles des architectures. C'est moi qui ai suspendu les clochettes au tombeau de Porsenna et entouré d'un mur d'oricalque les quais de l'Atlantide. Je cherche des parfums nouveaux, des fleurs plus larges, des plaisirs inéprouvés. Si j'aperçois quelque part un homme dont l'esprit repose dans la sagesse, je tombe dessus et je l'étrangle. Le Sphinx. Tous ceux que le désir de Dieu tourmente, je les ai dévorés. Les plus forts pour gravir jusqu'à mon front royal, monte au stries de mes bandelettes comme sur les marches de l'escalier. La lassitude les prend et ils tombent d'eux-mêmes à la renverse. Antoine commence à trembler. Il n'est plus devant sa cabane, mais dans le désert, ayant à ses côtés deux bêtes monstrueuses dont la gueule lui effleure l'épaule. Le Sphinx. Ô fantaisie, emporte-moi sur tes ailes pour désennuyer ma tristesse. La chimère. Ô inconnue, je suis amoureuse de tes yeux. Comme une hyène en chaleur, je tourne autour de toi, sollicitant les fécondations dont le besoin me dévore. Ouvre la gueule, lève tes pieds, monte sur mon dos. Mes pieds, depuis qu'ils sont à plat, ne peuvent plus se relever. Le lichen, comme une dartre, a poussé sur ma gueule. À force de songer, je n'ai plus rien à dire. Ô, tu mens, sphinx hypocrite, d'où vient toujours que tu m'appelles et me renies? C'est toi? Caprice indomptable qui passe et tourbillonne. Est-ce ma faute? Comment? Laisse-moi. Elle aboie. Le Sphinx. Tu remues, tu m'échappes. Il grogne. La chimère. Essayons, tu m'écrases. Non, impossible. Et en s'enfonçant peu à peu, il disparaît dans le sable, tandis que la chimère qui rampe la langue tirée s'éloigne en décrivant des cercles. La laine de sa bouche a produit un brouillard. Dans cette brume, Antoine aperçoit des enroulements de nuages, des courbes indécises. Enfin, il distingue comme des apparences de corps humains. Et d'abord s'avance le groupe des astomies, pareils à des bulles d'air que traverse le soleil. Ne souffle pas trop fort, les gouttes de pluie nous meurtrissent, les sons faux nous écorchent, les ténèbres nous aveuglent. Composés de brise et de parfums, nous roulons, nous flottons, un peu plus que des rêves, pas des êtres tout à fait. Les Nisnas n'ont qu'un œil, qu'une joue, qu'une main, qu'une jambe, qu'une moitié du corps et qu'une moitié du cœur. Et ils disent très haut, « Nous vivons fort à notre aise dans nos moitiés de maison, avec nos moitiés de femmes et nos moitiés d'enfants. » les blêmiers absolument privés de tête. Oh, nos épaules en sont plus larges, et puis il n'y a pas de bœuf, de rhinocéros, ni d'éléphant qui soit capable de porter ce que nous portons. Des espèces de traits comme une vague figure empreinte sur nos poitrines, voilà tout. Nous pensons des digestions, nous subtilisons des sécrétions. Dieu, pour nous, flotte en paix dans des chiles intérieures. Nous marchons droit notre chemin, traversant toutes les fanges, côtoyant tous les abîmes, et nous sommes les gens les plus laborieux, les plus heureux, les plus vertueux. Les pygmées. Petits bonshommes, nous grouillons sur le monde comme de la vermine sur la bosse d'un dromadaire. On nous brûle, on nous noie, on nous écrase, et toujours nous reparaissons plus vivaces et plus nombreux. Terribles par la quantité. Les sciapodes. Retenus à la terre par nos chevelures, longues comme des lianes, nous végétons à l'abri de nos pieds, larges comme des parasols, et la lumière nous arrive à travers l'épaisseur de nos talons. Point de dérangement et point de travail. La tête le plus bas possible, c'est le secret du bonheur. Leurs cuisses levées ressemblent à des troncs d'arbres, se multiplient et une forêt paraît. De grands singes y courent à quatre pattes. Ce sont des hommes à tête de chien, les cynocéphales. Nous sautons de branche en branche pour sucer les œufs et nous plumons les oisillons, puis nous mettons leur nid sur nos têtes en guise de bonnet. Nous ne manquons pas d'arracher les plis des vaches et nous crevons les yeux des lynx, nous fientons du haut des arbres, nous étalons notre turpitude en plein soleil. Lacérant les fleurs, broyant les fruits, troublant les sources, violant les femmes, nous sommes les maîtres par la force de nos bras et la fécondité de notre cœur. Hardi, compagnons, faites claquer vos mâchoires. Du sang et du lait coulent de leurs babines, la pluie ruisselle sur leur dos velu. Antoine hume la fraîcheur des feuilles vertes. Elles s'agitent, les branches s'entrechoquent, et tout à coup paraît un grand cerf noir, à tête de taureau, qui porte entre les oreilles un buisson de cornes blanches, le Sadusac. Mes 74 andouillés sont creux comme des flûtes. Quand je me tourne vers le vent du sud, il empare des sons qui attirent à moi les bêtes ravies. Les serpents s'enroulent à mes jambes, les guêpes se collent dans mes narines, et les perroquets, les colombes et les ibis s'abattent dans mes rameaux. Écoute. Il renverse son bois, d'où s'échappe une musique ineffablement douce. Antoine presse son cœur à deux mains. Il lui semble que cette mélodie va emporter son âme. Le Sadusac. Mais quand je me tourne vers le vent du nord, mon bois plus touffu qu'un bataillon de lances exhale un hurlement. Les forêts tressaillent, les fleuves remontent, la gousse des fruits éclate et les herbes se dressent comme la chevelure d'un lâche. Écoute. Il penche ses rameaux d'où sortent des cris discordants. Antoine est comme déchiré. Et son horreur augmente en voyant le Marticoras, gigantesque lion rouge à figure humaine avec trois rangées de dents. Les moires de mon pelage écarlate se mêlent au miroitement des grands sables. Je souffle par mes narines l'épouvante des solitudes. Je crache la peste, je mange les armées quand elles s'aventurent dans le désert. Mes ongles sont tordus en vrille, mes dents sont taillées en scie, et ma queue qui se contourne et hérisse de dards que je lance à droite, à gauche, avant, en arrière. Tiens, tiens! Et le Marticoras jette les épines de sa queue qui s'irradient comme des flèches dans toutes les directions. Des gouttes de sang pleuvent en claquant sur le feuillage. Le catoblé passe, buffle noir avec une tête de porc tombant jusqu'à terre et rattaché à ses épaules par un cou mince, long et flasque comme un boyau vidé. Il est vautré tout à plat, et ses pieds disparaissent sous l'énorme crinière à poils durs qui lui couvre le visage. Gras, mélancolique, farouche, je reste continuellement à sentir sous mon ventre la chaleur de la boue. Mon crâne est tellement lourd qu'il m'est impossible de le porter. Je le roule autour de moi lentement, et la mâchoire entr'ouverte, j'arrache avec ma langue les herbes vénéneuses arrosées de mon haleine. Une fois, je me suis dévoré les pattes sans m'en apercevoir. Personne, Antoine, n'a jamais vu mes yeux, ou ceux qui les ont vus sont morts. Si je relevais mes paupières roses et gonflées, tout de suite, tu mourrais. Antoine. Oh, celui-là. Oh, si j'allais avoir envie. Sa stupidité m'attire. Non, 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 je ne veux pas. Il regarde par terre fixement. Mais les herbes s'allument, et dans les torsions des flammes se dresse le basilic. Grand serpent violet à crête trilobée, avec deux dents, une en haut, une en bas.
« Prends garde, tu vas tomber dans ma gueule. Je bois du feu, le feu, c'est moi. Et de partout j'en aspire, des nuées, des cailloux, des arbres morts, du poil des animaux, de la surface des marécages. Ma température entretient les volcans. Je fais l'éclat des pierreries et la couleur des métaux. »
Le griffon, lion à bec de vautour avec des ailes blanches, les pattes rouges et le cou bleu. Je suis le maître des splendeurs profondes. Je connais le secret des tombeaux où dorment les vieux rois. Une chaîne qui sort du mur leur tient la tête droite. Près d'eux, dans des bassins de porphyre, des femmes qu'ils ont aimées flottent sur des liquides noirs. Leurs trésors sont rangés dans des salles, par losanges, par monticules, par pyramides, et plus bas, bien au-dessous des tombeaux, après de longs voyages au milieu des ténèbres étouffantes, il y a des fleuves d'or avec des forêts de diamants, des prairies d'escarboucles et des lacs de mercure. Adossé contre la porte du souterrain et la griffe en l'air, j'épie de mes prunelles flamboyantes ce qui voudrait venir. La plaine immense jusqu'au fond de l'horizon est toute nue et blanchie par les ossements des voyageurs. Pour toi, les battants de bronze s'ouvriront, et tu humeras la vapeur des mines, tu descendras dans les cavernes. Vite, vite !» Il creuse la terre avec ses pattes en criant comme un coq. Mille voix lui répondent, la forêt tremble. Et toutes sortes de bêtes effroyables surgissent. Le traguet l'affus, moitié cerf et moitié bœuf, le mirme est collé haut, lion par devant, fourmi par derrière, et dont les génitoires sont à rebours, le python axar, de 60 coudées qui épouvanta Moïse, la grande belette pastinaca, qui tue les arbres par son odeur,
le Prestéros qui rend imbécile par son contact, et le Mirague, lièvre cornu, habitant des îles de la mer. Le léopard falmant crève son ventre à force de hurler. Le Cénade, ours à trois têtes, déchire ses petits avec sa langue. Le chien Cépus répand sur les rochers le lait bleu de ses mamelles. Des moustiques se mettent à bourdonner, des crapauds à sauter, des serpents à siffler. Des éclairs brillent, la grêle tombe. Il arrive des rafales pleines d'anatomie merveilleuse. Ce sont des têtes d'alligator sur des pieds de chevreuil, des hiboux à queue de serpent, des pourceaux à mufle de tigre, des chèvres à croupe d'âne, des grenouilles velues comme des ours, des caméléons grands comme des hippopotames, des veaux à deux têtes dont l'une pleure et l'autre beugle, des fœtus quadruples se tenant par le nombril et valsant comme des toupies, des ventres ailés qui voltigent comme des moucherons. Il en pleut du ciel, il en sort de terre, il en coule des rochers. Partout des prunelles flamboient, des gueules rugissent, les poitrines se bombent, les griffes s'allongent, les dents grincent, les chairs clapotent. Il y en a qui accouchent, d'autres copulent, ou d'une seule bouchée s'entre-dévorent. S'étouffant sous leur nombre, se multipliant par leur contact, ils grimpent les uns sur les autres, et tous remuent autour d'Antoine avec un balancement régulier, comme si le sol était le pont d'un navire. Il sent contre ses mollets la traînée des limaces, sur ses mains le froid des vipères, et des araignées filant leur toile l'enferment dans leur réseau. Mais le cercle des monstres s'entr'ouvre, le ciel tout à coup devient bleu, et la licorne se présente. Au galop, au galop, j'ai des sabots d'ivoire, des dents d'acier, la tête couleur de pourpre, le corps couleur de neige, et la corne de mon front porte les bariolures de l'arc-en-ciel. Je voyage de la Chaldée au désert tartare, sur les bords du Gange et dans la Mésopotamie. Je dépasse les autruches, je cours si vite que je traîne le vent. Je frotte mon dos contre les palmiers, je me roule dans les bambous, d'un bond je saute les fleuves, des colombes volent au-dessus de moi, une vierge seule peut me brider, au galop, au galop. Antoine la regarde s'enfuir, et ses yeux restant levés, il aperçoit tous les oiseaux qui se nourrissent de vent. Le gouït, la hutie, l'asphalime, le lucnet des montagnes de Kaf, les homaïs des Arabes qui sont les âmes d'hommes assassinés. Il entend les perroquets proférer des paroles humaines, puis les grands palmipèdes pélagiens qui sanglotent comme des enfants ou ricanent comme de vieilles femmes. Un air salin le frappe aux narines. Une plage, maintenant, est devant lui. Au loin, des jets d'eau s'élèvent, lancés par des baleines, et du fond de l'horizon, les bêtes de la mer, rondes comme des outres, plates comme des lames, dentelées comme des scies, s'avancent en se traînant sur le sable. « Tu vas venir avec nous, dans nos immensités !» où personne encore n'est descendu. Des peuples divers habitent les pays de l'océan. Les uns sont au séjour des tempêtes, d'autres nagent en plein dans la transparence des ondes froides, broutent comme des bœufs les plaines de corail, aspirent par leurs trompes le reflux des marées, ou portent sur leurs épaules le poids des sources de la mer. Des phosphorescences brillent à la moustache des phoques, aux écailles des poissons. Des oursins tournent comme des roues, des cornes d'amont se déroulent comme des câbles, des huîtres font crier leurs charnières, des polypes déploient leurs tentacules, des méduses frémissent, pareilles à des boules de cristal, des éponges flottent, des anémones crachent de l'eau, des mousses, des varechs ont poussé. Et toutes sortes de plantes s'étendent en rameaux, se tordent en vrille, s'allongent en pointe, s'arrondissent en éventail. Des courges ont l'air de saints, des lianes s'enlacent comme des serpents. Les dédaïmes de Babylone, qui sont des arbres, ont pour fruit des têtes humaines, et des mandragores chantent, la racine Baharas court dans l'herbe. Les végétaux, maintenant, ne se distinguent plus des animaux. Des polypiers, qui ont l'air de sycomores, portent des bras sur leurs branches. Antoine croit voir une chenille entre deux feuilles. C'est un papillon qui s'envole. Il va pour marcher sur un galet, une sautelle grise brandit. Des insectes, pareils à des pétales de rose, garnissent un arbuste. Des débris d'éphémères font sur le sol une couche neigeuse. Et puis, les plantes se confondent avec les pierres. Des cailloux ressemblent à des cerveaux, des stalactites à des mamelles, des fleurs de fer à des tapisseries ornées de figures. Dans des fragments de glace, ils distinguent des efflorescences, des empreintes de buissons et de coquilles, à ne savoir si ce sont les empreintes de ces choses-là ou ces choses elles-mêmes. Des diamants brillent comme des yeux, des minéraux palpitent. Et il n'a plus peur. Il se couche à plat ventre, s'appuie sur les deux coudes, et, retenant son haleine, il regarde. Des insectes, n'ayant plus d'estomac, continuent à manger. Des fougères desséchées se remettent à fleurir. Des membres qui manquaient repoussent. Enfin, il aperçoit de petites masses globuleuses, grosses comme des têtes d'épingles et garnies de cils tout autour. Une vibration les agite. Antoine, délirant. Oh, bonheur, bonheur, j'ai vu naître la vie, j'ai vu le mouvement commencer. Le sang de mes veines bat si fort qu'il va les rompre. J'ai envie de voler, de nager, d'aboyer, de beugler, de hurler. Je voudrais avoir des ailes, une carapace, une écorce, souffler de la fumée, porter une trompe, tordre mon corps, me diviser partout, être en tout, m'émaner avec les odeurs, me développer comme les plantes, couler comme l'eau, vibrer comme le son, briller comme la lumière, me blottir sur toutes les formes, pénétrer chaque atome, descendre jusqu'au fond de la matière, être la matière. Le jour enfin paraît, et comme les rideaux d'un tabernacle qu'on relève, des nuages d'or en s'enroulant à large volute découvrent le ciel. Tout au milieu, et dans le disque même du soleil, rayonne la face de Jésus-Christ. Antoine fait le signe de la croix et se remet en prière.